je suis Sarah, derrière le compte Madame la Juriste. Ma mission à moi, c'est de faire en sorte que le droit ne soit vraiment plus vu comme ton ennemi, mais vraiment comme un allié dans ton business pour aller plus loin et pour atteindre plus facilement tes objectifs. Je le fais, je t'accompagne via deux possibilités. Soit je te fournis en fait des modèles d'actes juridiques qui vont te permettre de te mettre en conformité, d'anticiper les problèmes dans ton business, ou soit je t'accompagne à passer de micro-entreprise à société et à aller encore plus loin, à aller vraiment défoncer ces barrières qui viennent dans ton esprit, te dire que tu n'es pas capable, te dire que tu n'es pas assez. Et moi, vraiment, j'ai envie de te montrer que c'est possible parce que j'ai accompagné d'autres entreprises à le faire et parce que je suis passée moi-même par ces questionnements que tu te poses actuellement.
Hello. On se retrouve enfin dans mon podcast. Ça fait 500 ans que je dis que je vais revenir et en fait, je prends pas le temps de le faire. Et pour revenir, quoi de mieux que de vous parler de ce que je traîne depuis que je suis petite, de ce qui a toujours été mon étiquette phare, ce par quoi on m'a toujours présenté ou identifié, ou lorsqu'on parlait de moi et que une personne, par exemple, savait pas que j'étais, je sais pas, la juriste dont on parlait ou j'étais l'amie dont on parlait, on allait toujours dire... Mais tu sais, la grosse. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous en parler et de vous parler de l'impact que ça a pu avoir aussi sur mon parcours d'entrepreneur et que ça a encore toujours et des combats que je mène aussi pour justement qu'on évite de coller des étiquettes sur les gens et qu'on arrête de les voir que sous ce prisme-là. Par exemple, elle est riche, c'est qu'une riche. Elle est grosse, c'est qu'une grosse. Avec tout ce qui peut venir avec. Donc, elle est plus feignante ou elle est moins rapide que les autres ou alors elle est moins performante, elle rapporte peut-être moins d'argent, elle a peut-être moins d'ambition, moins. Et pourquoi pas voir la personne telle qu'elle est. Et aujourd'hui, je vais vous parler du coup à cœur ouvert de qui je suis et de pourquoi je commence à en avoir ras le cul des étiquettes et que j'aimerais qu'on apprenne à voir les autres autrement que par un prisme d'un adjectif qu'on estime être voilà, le plus déterminant pour définir la personne. Donc déjà, depuis toute petite, je pense que j'ai commencé à avoir des problèmes avec mon rapport avec la nourriture, avec l'alimentation, à partir du moment où j'avais 8 ans. C'est un moment où, enfin en tout cas moi je m'en souviens, peut-être qu'avant j'en avais déjà, mais c'est à ce moment-là où je me souviens avoir fait attention à... faire attention à ce que je mangeais, c'est-à-dire me dire « Ah bah là, il faudrait peut-être que je saute un repas ou il faudrait peut-être que je mange moins pour ressembler à telle ou telle personne » dès 7-8 ans. L'élément déclencheur, c'était quoi? En tout cas, le plus lointain que j'ai en tête, c'est que j'avais une cousine qui venait du Congo et qui venait d'arriver en France et j'étais tellement contente parce que du coup, moi, j'avais pas de sœur, j'avais que des frères et mes frères, ils étaient en mode, ils jouent à la console, ils jouent entre eux et très souvent, je jouais toute seule. Donc du coup, avoir une cousine qui venait habiter chez moi, j'étais trop contente. Elle était tellement l'inverse de moi. Moi, j'étais une personne super calme, un peu réservée et puis qui se prenait pas beaucoup de place, tu vois. Et elle était là en mode... Elle faisait rire tout le monde, elle avait beaucoup d'énergie, elle prenait beaucoup de place dans le sens où tu savais qu'elle était là dans la pièce parce qu'elle avait toujours un truc à dire, elle était toujours intéressante, elle était toujours en train de danser. C'était une vraie boule d'énergie et j'avais envie d'être comme elle. Donc je me disais, mais moi, mon but dans la vie, c'est d'être elle. Et je faisais exactement tout comme elle. Et c'est vrai qu'ensemble, on faisait les 400 coups, on rigolait beaucoup, on était très très complices, mais on allait aussi à la boulangerie, on achetait des bonbons, on faisait des petites fêtes, on mangeait des gâteaux, on faisait plein de choses ensemble. Et en fait, petit à petit, moi j'ai commencé à prendre du poids. Je ne m'en rendais pas trop compte parce qu'à 7 ans, t'es plutôt en mode... Ok, t'as pris du poids et alors c'est devenu problématique à partir du moment où les adultes me l'ont fait remarquer. Donc je pense que je n'avais pas pris vraiment beaucoup de poids parce que quand on regarde les photos, j'avais juste pris un petit peu de gras au niveau du ventre. Mais c'était devenu genre le gras de trop, puisque du coup ma cousine avait déjà quelques kilos en trop et moi j'en avais pas avant. Et du coup ma mère en a fait une priorité que de faire en sorte que je perde ces quelques petits kilos en trop, qui étaient peut-être à de l'ordre de 2 kilos, en me mettant déjà en restriction alimentaire. Donc quand j'avais même pas encore passé l'étape de la puberté, je devais déjà faire super attention à ce que je mangeais, faire attention à ne pas prendre de gâteaux ou de goûter, faire attention à si je devais manger, du coup prendre de très petites portions dans mon assiette, puisque elle suivait aussi plusieurs régimes. Donc ce qui est assez fou, c'est que je me souviens, les plus lointains souvenirs que j'ai dans mon enfance sont des souvenirs où j'étais déjà en train de subir des régimes, ou déjà en train de subir des restrictions alimentaires. Et comment ça a pu m'impacter dans ma vision déjà de l'amitié, de l'amour, etc., c'est que je me rendais toujours conditionnelle l'amour qu'on pouvait me donner à mon apparence physique. Si je suis suffisamment mince, ou si j'ai suffisamment perdu 2 kilos, je mérite l'attention qu'on peut m'apporter, je mérite d'avoir plein de personnes qui viennent à mon anniversaire, je mérite d'avoir plein de cadeaux, je mérite d'avoir plus de considération. C'est tellement débile qu'on en parle, mais pourtant c'était vraiment, vraiment putain d'ancré en moi. Je mérite qu'on me regarde plus, je mérite qu'on m'entende plus. Donc je prenais plus d'initiatives, par exemple, quand j'estimais avoir bien travaillé pour perdre du poids, quand j'estimais avoir bien eu des restrictions. Et c'est pour ça que pas longtemps après être entrée au collège, enfin, j'ai commencé à avoir des troubles alimentaires, mais qui étaient plus au niveau du... Enfin, qui était plus que le contrôle simple de qu'est-ce que j'allais manger, ou si je mange un Snickers aujourd'hui, ce soir, faut pas que je mange. C'était encore plus haut que ça, puisque je commençais à me faire vomir à partir du moment où je suis entrée en troisième, suite à plusieurs traumas. Peut-être que ça fera l'objet d'ailleurs d'une autre vidéo, parler de l'harcèlement scolaire, l'impact que ça a pu avoir ensuite sur ma vie d'adulte et tout, c'est super intéressant comme sujet. Comment aussi prévenir, parce que j'essaye de me dire aussi en tant que maman que j'essaierai de trouver les signes avant-coureurs d'un harcèlement à l'école pour mon enfant, parce que si jamais ton enfant ne t'en parle pas, parfois il faut aussi chercher les signes toi-même. Et du coup, pour en venir à ces épisodes boulimiques, en fait, suite à un harcèlement scolaire que j'ai vécu, et surtout la sensation d'être extrêmement seule, sachant que mes parents n'étaient plus ensemble, et que j'avais des rapports conflictuels avec ma mère, moi seule échappatoire, et mon seul contrôle, c'était mon poids. Et du coup, j'étais devenue boulimique vomitive pendant une période d'un an. Et mon rapport avec les autres, c'est juste que à partir de ce moment-là, je suis maintenant certaine que c'est à partir de ce moment-là, je n'avais plus confiance en personne. Je n'avais plus confiance en moi, je n'avais plus confiance en mes amis, parce que personne n'était capable de m'aider ou personne n'était capable de me comprendre. J'étais toujours la grosse de toute façon de service, donc mis à part quelques amis qui pouvaient peut-être avoir quelques légers kilos en trop, moi j'étais la personne qui avait peut-être... 15 kilos en trop déjà, du coup j'arrivais pas déjà à me reconnaître dans les amis que j'avais à l'école, et elles non plus, donc parfois elles pouvaient avoir des phrases comme « mais putain t'es toujours en train de bouffer, mais toi pourquoi tu reprends encore du pain, tu devrais faire plus de sport, mais pourquoi tu mets quand on fait des magasins, pourquoi tu prends cette veste en L, c'est sûr que ça va pas t'aller, que des choses comme ça. » Et effectivement ça a façonné ma manière aussi de me voir. Et déjà qu'à la maison, depuis que j'avais 7 ans, on me voyait déjà comme la bouboule de service, à l'école aussi. Et moi, j'ai fini par le voir et me coller cette étiquette vraiment indélébile en moi. Et donc, j'avais perdu confiance aux autres, en moi, en mes proches aussi, en ma famille, parce que la manière dont moi je me percevais à force d'entendre plusieurs phrases qui allaient en ce sens-là, en fait j'étais que la grosse, je me voyais que grosse. Donc qu'est-ce que je pouvais faire? Ma seule arme finalement, c'était de me dire « ok, je vais prendre aussi de la place, je vais rigoler plus fort, je vais parler plus fort, je vais être très présente, très investie à l'école pour qu'on puisse se souvenir de moi » pas que comme la grosse, mais aussi comme celle qui a beaucoup de connaissances, celle qui en sait peut-être plus que les autres. Et j'avais besoin de montrer toujours que j'avais plus à prouver, que j'étais peut-être meilleure que les autres sur certains domaines, puisque je ne pouvais pas montrer que j'étais meilleure sur le domaine physique. Donc, qu'est-ce que j'en retiens aussi aujourd'hui dans l'entrepreneuriat? Comment ça façonne aussi mon expérience? C'est que malheureusement, je me trouve parfois à me demander... est-ce que si j'étais plus mince, j'aurais plus de clients? Et c'est encore quelque chose comme quand j'étais plus petite où je me disais, est-ce que si j'étais plus mince, j'aurais plus d'amis à mon anniversaire? Est-ce que j'aurais plus de cadeaux? Est-ce que mes parents m'accorderaient plus de temps? C'est encore quelque chose que je transpose dans la vie professionnelle, où je me dis, Ok, si j'arrive à perdre 20 kilos, peut-être que j'aurai 20% de plus en chiffre d'affaires. Si jamais je prends 5 kilos de plus, peut-être que tel ou tel client me verront sur la caméra et diront « Non mais why je vais bosser avec elle, elle est tellement feignante » ou tu sais, tous les adjectifs péjoratifs qu'on peut rattacher à la définition d'une personne grosse. Et donc, aujourd'hui, dans l'entrepreneuriat, même si c'est quelque chose que je porte dans l'enfance et même si c'est quelque chose qui impactait uniquement ma sphère personnelle, on va dire, quand j'étais petite, ça a encore un impact aujourd'hui sur la manière dont je vais me voir. Je ne sais pas si c'est un impact direct aussi, d'ailleurs vous pourrez me le dire, ça pourrait être un échange intéressant, mais je ne sais pas si c'est un impact direct aussi sur comment les autres peuvent me voir, puisque je ne pose pas la question, je ne leur demande pas, écoute, quand tu dois me décrire à quelqu'un, est-ce que tu dis « Ah, j'ai vu Sarah, tu sais la juriste qui s'habille en rouge, qui est fun, qui vulgarise le droit, voilà, qui fait des reels marrants ?» Ou est-ce que tu vas dire « Mais tu sais, l'entrepreneur noire et grosse ?» Donc tu vois, je reste toujours persuadée que la première chose que les gens vont dire pour me définir, c'est « Mais tu sais, la grosse !» Parce que ça a toujours, toujours, toujours été comme ça. Et donc, ça sera aussi en lien avec un épisode où je vais vous parler de la confiance en soi et la protection juridique, parce que je trouve que c'est très imbriqué. Mais aujourd'hui, je trouve que l'estime que j'ai de moi impacte fortement mes prises d'initiative dans l'entrepreneuriat, ce que je vais oser faire, ce que je vais oser dire, quand je vais oser le faire aussi. Il y a plein de fois où j'ai filmé du contenu, comme là où j'ai filmé cet épisode de podcast en vidéo et que je n'ai pas posté la vidéo parce que je me trouvais trop moche. Pour plusieurs raisons, mais la raison principale, c'est que même si je me trouvais bien, maquillée, souriante, c'est que je trouvais que j'étais trop grosse. Et du coup, je me disais, mais si moi je me trouve trop grosse, vous allez me trouver beaucoup plus grosse que ce que je suis, et donc du coup, vous n'allez pas aimer le contenu. Alors que ça n'a rien à voir, genre, t'es là, t'as envie de t'épouser, t'as envie de bosser tes CGV, tu vas pas regarder, est-ce que la personne elle fait une taille 36, ou est-ce qu'elle fait une taille 50, est-ce qu'elle fait une taille 46, enfin je pense que t'en as rien à foutre, mais moi... Ça me bloque pour créer du contenu, ça me bloque pour être présente et ça m'impacte aussi. Et puis en fait c'est un effet boule de neige un petit peu, mais dans le côté négatif, c'est que plus tu vas avoir cette pensée-là, plus malheureusement tu vas te limiter dans tes contenus et effectivement tu auras moins de résultats. Donc aujourd'hui, j'avais envie d'ouvrir la discussion là-dessus, sur du coup l'impact des étiquettes qu'on a pu avoir dans notre enfance, qui aujourd'hui nous impacte encore aujourd'hui. Et moi, l'étiquette la plus caractéristique, c'est être juste la grosse. Donc voilà. Donc j'espère que cet épisode de podcast vous aura été utile, vous aura en tout cas permis de réfléchir et ouvrira des discussions d'ailleurs, si vous avez envie d'échanger, qu'on puisse échanger là-dessus sur Instagram, ce sera avec plaisir, sur l'impact des étiquettes sur votre vie en fait, adulte et même d'entrepreneur. Il n'y a pas forcément de leçon derrière, si ce n'est que il faut d'abord apprendre à déconstruire ce qu'on a appris depuis qu'on est petit sur qui on est, parce que souvent ce sont des étiquettes ou ce sont des choses que les autres nous ont attribuées et qu'on est en capacité de s'en soulever. Donc moi par exemple, j'ai commencé un suivi psychologique et j'avais commencé par exemple certains coachings, certains accompagnements, mais au final, c'est pas pareil d'être accompagné par un coach qui est là plutôt pour te motiver et d'être accompagné par un psychologue, psychiatre, psychanalyste ou autre qui est là pour t'aider à déconstruire aussi le poids du passé. C'est pas le même travail, c'est pas les mêmes formations et j'estime aussi que tout le monde devrait au moins une fois consulter un psychologue pour déjà aller mieux, que ce soit pour du mieux-être, hein, parce qu'on n'est pas forcément obligé d'avoir des problèmes de santé mentale ou des problèmes de santé physique, même pour aller voir un psychologue ou un psy tout court, juste pour s'assurer qu'on ne trimballe pas avec nous des traumas d'enfance, dont les étiquettes, et s'assurer que même si d'apparence tout va bien, je dis bien d'apparence, ça ne nous impacte pas pour moins vendre, pour moins oser communiquer, pour moins être présent sur les réseaux sociaux, moins faire preuve d'empathie vis-à-vis des personnes qui nous font confiance dans l'entrepreneuriat. Donc voilà, si c'est ma petite note de fin, c'est aller consulter un psy, aller voir d'abord tout ce qui peut être mis en place pour prendre soin de soi à l'intérieur avant de prendre soin de son entreprise. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode de podcast.
dreams tonight. Oh.